Bonsoir, ou peut-être bonjour, tout dépend de l'endroit du monde d'où vous nous écoutez. Toujours est-il qu'à Paris, ici, il est pile 19h.
RFI Soir. Philippe Caplain.
Bienvenue dans la grande session d'information du soir avec des faits et des commentaires, des reportages et des analyses. Dans 10 minutes après le journal, ce sera Accent du Monde avec les regards croisés des rédactions en langues étrangères de RFI concernant les 100 premiers jours de Donald Trump à la Maison Blanche. Il sera également question de 2 ans de guerre au Soudan, de la guerre en Ukraine avec les derniers développements pour que les armes se taisent enfin, et puis il sera question d'une autre guerre commerciale, celle-là, entre les États-Unis et la Chine. Dans une demi-heure, ce sera les dessous de l'Infox. Ce soir, les conditions de travail des journalistes qui se dégradent un peu partout d'après le classement annuel réalisé par Reporters sans frontières. Et puis la cellule Info Vérif de RFI dira le vrai du faux concernant un convoi militaire filmé à Dakar, mais qui n'appartient pas à l'armée française. Afrique Soir s'intéressera entre autres au projet de paix sous l'égide américaine pour ramener le calme entre le Rwanda et la RDC. Et puis dans 2 heures, sur Radio France Internationale, Ici l'Europe, qui recevra Pascal Lamy, coordinateur des instituts Jacques Delors, après avoir été directeur général de l'Organisation mondiale du commerce et commissaire européen au commerce. Avec lui, il sera bien évidemment question de la guerre commerciale et de la place de l'Europe face aux États-Unis. RFI Soir, 17h en temps universel. Tout de suite, l'essentiel de l'actualité avec un journal. C'est avec vous, Margot Ratézic. Et la guerre à Gaza, la crainte d'un effondrement total des opérations humanitaires.
Oui, le comité international de la Croix-Rouge s'inquiète plus que jamais des conséquences du blocus de l'aide en vigueur depuis 2 mois. Des milliers de camions chargés de denrées et de médicaments sont bloqués à la frontière. La nuit dernière, un navire d'aide a même été la cible de drones en mer au large de Malte. L'ONG Flotille de la Liberté, à laquelle le bateau appartenait, pointe la responsabilité d'Israël qui, pour l'heure, n'a pas réagi. Muriel Paradon.
Il est minuit 23 exactement lorsque le Conscience, un navire de la flottille de la Liberté, est attaqué par 2 drones armés, selon des militants à bord qui filment la scène. L'attaque provoque un incendie et troue la coque du bateau, provoquant une voie d'eau. Le navire envoie alors un signal de détresse, mais il ne sera pas secouru par les autorités maltaises, assure l'ONG, alors que le Conscience se trouve au large de Malte. L'Italie et Chypre interviennent finalement pour éteindre l'incendie. Il n'y a pas de blessés, mais une porte-parole de l'organisation dénonce un scandale. Israël est pointé du doigt. La flottille de la Liberté comptait envoyer de l'aide humanitaire à Gaza, soumis à un blocus total depuis 2 mois, plongeant les habitants du territoire palestinien dans une situation désespérée. La flottille de la Liberté a déjà été visée dans le passé. En 2010, un de ses navires en route pour Gaza, le Mavi Marmara, avait subi un assaut de commandos israéliens. 9 militants turcs avaient été tués.
Muriel Paradon. Et ce vendredi, de nouvelles frappes israéliennes ont causé la mort de 29 personnes, annonce la défense civile.
Le secrétaire général de l'ONU condamne la frappe israélienne intervenue près du palais présidentiel à Damas, en Syrie.
La présidence syrienne parle de son côté d'une dangereuse escalade. Israël a réitéré ses avertissements aux autorités syriennes contre toute atteinte à la minorité druze. Cette communauté, issue d'une branche de l'islam chiite, est au cœur d'affrontements à caractère religieux depuis le début de la semaine. Violences qui ont causé la mort de plus de 100 personnes en Syrie.
Marc Carré sera reçu à la Maison Blanche mardi prochain.
Première rencontre avec Donald Trump depuis la récente victoire du Premier ministre canadien aux élections législatives il y a quelques jours. La rencontre interviendra en plein froid diplomatique entre les deux alliés historiques après les menaces d'annexion du président américain. Et la Maison Blanche a dévoilé la première ébauche de budget du second mandat de Donald Trump. Un projet qui taille massivement dans les aides internationales ou les subventions jugées « woke ». Seuls épargnés, les dépenses militaires et sécuritaires.
De son côté, Apple affiche des résultats meilleurs que prévus au premier trimestre.
Le géant de la tech s'attend tout de même à une hausse de ses dépenses plus tard dans l'année à cause des taxes imposées par Donald Trump, puis suspendues pour 3 mois. Les investisseurs, eux, sont inquiets, Agnieszka Kumor.
Le patron de la firme à la pomme, Tim Cook, l'assure. Pour l'instant, les produits d'Apple en provenance de Chine sont à l'abri des tarifs punitifs, en attendant leur examen par le gouvernement américain. Oui, mais même taxé à 20%, l'impact sur les prix n'est pas négligeable, rétorquent les investisseurs. L'entreprise a donc pris les devants. Pour le trimestre en cours, la majorité des iPhones vendus aux États-Unis proviennent d'Inde. Cette décision permettra d'éviter les droits de douane de 145% appliqués aux produits venus de Chine, le lieu traditionnel de leur fabrication. Les iPads, les ordinateurs, les montres connectées ou les écouteurs auront, eux, pour origine, le Vietnam. Si la marque à la pomme s'en est bien tirée avec près de 25 milliards de dollars de bénéfices nets en début d'année, il ne sera pas facile de poursuivre ses performances. Sa politique de prix sera scrutée de près dans un contexte d'incertitude sur l'économie et les approvisionnements.
Agnieszka Kumor du service économie de RFI.
Le réseau social TikTok écope d'une amende de 530 millions d'euros.
Et la plateforme a échoué à garantir une protection suffisante des données personnelles de ses utilisateurs européens en Chine. TikTok qui a par ailleurs reconnu avoir hébergé en Chine des données européennes.
L'actualité en France, c'est la question de la nationalisation des entreprises qui revient dans le débat.
On parle beaucoup dans l'Hexagone de la suppression de 600 emplois par le sidérurgiste ArcelorMittal pour délocaliser sa production en Inde, et ce malgré de bons résultats. De quoi relancer la question de la nationalisation donc. La gauche demande à l'État de monter au créneau. Il y a plus de 10 ans, pourtant, elle n'avait pas porté jusqu'au bout l'idée de nationaliser. Les précisions de Victoria.
C'était en 2012, la gauche socialiste émet l'idée de nationaliser l'usine ArcelorMittal de Florange avant de finalement renoncer. 13 ans plus tard, la gauche est dans l'opposition et tous les partis de LFI au PS mettent cette idée sur la table. Nicolas Mayer-Rossignol.
La nationalisation, les États-Unis l'ont fait pour General Motors. Le Royaume-Uni l'a fait. L'Allemagne l'a fait. C'est pas des pays soviétiques. On ne peut pas dire d'un côté il faut une souveraineté industrielle en France et pas tout faire pour défendre les emplois en France ou en Europe.
Nationaliser les salariés eux-mêmes voient ça comme le remède et le gouvernement se retrouve donc contraint de se positionner. La nationalisation n'est pas à l'ordre du jour, tranche le ministre Marc Ferracci sur BFM TV.
Il faut que la Commission européenne prenne des mesures extrêmement fortes pour éviter les importations d'acier chinois qui aujourd'hui font qu'Arcelor a suspendu un certain nombre d'investissements. Si on arrive à lutter et faire en sorte que Arcelor lutte à armes égales avec les Chinois en taxant, en limitant les importations, alors les investissements se feront, alors il y a un avenir pour la sidérurgie en France et en particulier à Dunkerque.
Face à ce refus, la gauche espère peser dans le dossier ArcelorMittal en passant par le Parlement. Le PS va déposer un texte de loi pour que l'État mette sous tutelle l'usine de Dunkerque.
Victorien Villaume du service politique de RFI.
21 suspects présentés à la justice après une série d'attaques contre des prisons et des surveillants.
Deux d'entre eux sont mineurs, 7 autres sont déjà incarcérés. Les enquêteurs ont pu confirmer que le narcotrafic était bien derrière ces violences.
Les femmes transgenres ne pourront plus participer aux compétitions de football, c'est en Angleterre et en Écosse.
C'est ce qu'ont annoncé ce jeudi les fédérations, une interdiction qui fait suite à la décision de la Cour suprême britannique de définir légalement une femme uniquement par son sexe biologique. Mais avant que cette décision ne soit rendue, certaines associations faisaient déjà pression pour exclure les femmes transgenres des compétitions. Julien Chavanne.
Elles ne sont qu'une trentaine à disputer des compétitions au niveau amateur. Mais pour Fiona McCannena de l'association Sex Matters, les femmes transgenres poseraient problème.
Le football est un sport de contact et jouer contre quelqu'un de beaucoup plus fort et rapide que soi, c'est très difficile. Il y a aussi le problème des blessures car encore une fois, une grande disparité entre les joueuses représente un risque.
Une vision stéréotypée et non vérifiable car ce n'est pas du tout ce qu'a vécu Amelia Snowden. Cette femme transgenre de 44 ans joue dans une équipe féminine de foot de l'Essex dans le nord-est de Londres.
Quand j'ai rejoint une équipe féminine, je leur ai demandé « Est-ce que je peux être ici ?» Et elle me répondait toujours « Ne sois pas ridicule, tu es l'une des nôtres, tu es une femme comme nous. »
Si dans sa vie quotidienne, Amelia ne se sent pas menacée, le climat général est en train de changer.
La première chose que je ressens, c'est de la déception et je suis assez blessée aussi. Ça a clairement changé la donne et l'opinion des gens. Je pense qu'il y a davantage de suspicion.
Les fédérations de foot proposent désormais aux joueuses transgenres de jouer entre elles. Amélia, elle, ne lâchera pas le ballon ni son équipe. Elle continuera à jouer avec elle sans participer aux compétitions.
Fin de ce journal. Tout de suite, RFI Soir continue avec vous, Philippe Le Caplin.
Margot Ratézy qui revient 21h pour d'autres informations. Tout de suite sur RFI, c'est Accent du Monde.